Galhistoire, l'application qui fait adorer l'histoire. Avec l'application Galhistoire, écoutez et regardez des centaines d'histoires à l'infini. Retrouvez tous les personnages Galhistoire, la série Mythes et Légendes et des nouveautés chaque mois. Vous pensez que vos enfants en sauront plus que vous sur l'histoire de France ou sur la mythologie égyptienne? Eh bien, vous avez raison. Alors, prêt à les faire voyager dans le temps? Essayez dès maintenant l'application Galhistoire à télécharger sur l'Apple Store ou Google Play.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dans la classe 2. Avec Dans la classe 2, vous allez avoir la chance d'assister à une discussion entre des enfants de votre âge et un personnage historique. Marie Curie, Napoléon ou encore Nefertiti, écoutez ces figures de l'histoire, vous raconter les événements marquants de leur vie et surtout répondre aux questions de leur jeune public. Prêt ? Alors, en avant pour découvrir Dans la classe 2...
Bien sûr que si, c'est Charlemagne qui a inventé l'école.
Mais n'importe quoi, l'école ça existait bien avant.
Mais non,
c'est la maîtresse qui a inventé l'école.
Chut. Faites moins de bruit.
Qu'est-ce que c'est que tout ce raffut?
C'est Jade, elle dit que c'est pas Charlemagne qui a inventé l'école.
Eh bien, vous savez quoi? On va lui demander.
Oh oui, le grand livre d'histoire.
Le grand livre d'histoire. Le grand livre d'histoire. Le grand livre.
Alors, Charlemagne. Ah, le voilà.
C'est Astérix, quoi.
Vous avez vu sa moustache?
Et sa couronne pleine de bijoux!
Monsieur Magne, hein, c'est vous qui avez inventé l'école, hein?
Mais vous êtes qui, vous, d'abord? Et qu'est-ce que je fais ici?
Charlemagne Ier, désolé de vous tirer du grand livre d'histoire ainsi, mais mes élèves voulaient en savoir un peu plus sur vous, et notamment sur votre lien avec l'école.
Je vois. Eh bien, pour cela... il faut commencer par le tout début. Je suis né en 742. Ou en 747. Ou peut-être en 748.
Quoi? Vous ne connaissez pas votre date d'anniversaire?
Eh bien, je ne sais pas comment c'est pour vous aujourd'hui, mais de mon temps, on ne gardait pas toujours une trace très précise de cela. Et même si l'on dit que les écrits restent, avec les années qui passent, certaines choses s'effacent.
C'est pratique pour faire croire qu'on est plus grand.
Et... vous avez des souvenirs de quand vous étiez petit?
Oh oui. Le plus beau d'entre eux, c'est lorsque mon père, Pépin le Bref, s'est fait sacrer roi des Francs par le pape. Durant la cérémonie, j'étais au premier rang avec mon frère cadet, Carlomane.
Et vous aviez un frère? Pourquoi on ne le connaît pas, lui?
Lorsque mon père meurt en 768, la tradition veut que le royaume soit partagé entre mon frère et moi. Malheureusement pour Carlomane, après seulement 3 ans de règne, il décède à son tour. Et je me retrouve seul à diriger le pays. Très vite, il s'avère que je suis fait pour ça. Je suis jeune, fort, charismatique. J'excelle aussi bien à la chasse qu'à la guerre. Et surtout, je sais me faire respecter de mon entourage, ce qui fait de moi un chef remarquable. Ayant confiance en mes hommes... je décide de réaliser ma première expédition en Saxe.
En quoi?
La Saxe est une région historique d'Allemagne. Aujourd'hui, elle correspond au territoire que l'on nomme la Basse-Saxe.
Et il faut savoir qu'à l'époque de mon père, les Saxons nous versaient un tribut.
Un tribut, c'est comme ça que l'on appelle une somme d'argent qu'un pays donne de manière forcée à un autre pays.
Mais quand mon père est mort, les Saxons n'ont plus voulu nous verser cette somme. Et en plus de cela, ces gredins s'amusaient à faire irruption dans mon royaume. Alors, en 772, je suis allé leur rendre une petite visite pour leur demander réparation, mais aussi pour les convertir au christianisme. Parce que figurez-vous que ces mécréants se permettaient de croire en plusieurs dieux.
Et alors, on peut croire en ce qu'on veut, non ?
Maintenant, peut-être, mais moi, de mon temps, il fallait être chrétien. Un point, c'est tout. Alors, pour leur montrer que leur soi-disant dieu était incapable de les protéger, j'ai fait abattre leur arbre sacré, l'Irminsul, d'un grand coup de hache.
Quoi ? Mais il ne vous avait rien fait, cet arbre ?
Non, mais c'était pour leur donner une bonne leçon aux Saxons.
Mais je veux pas le savoir. Ça se fait pas de couper des arbres comme ça.
D'accord.
Surtout que ça a entraîné une guerre contre les Saxons qui a duré plus de 30 ans.
En plus !
Mais je n'ai pas fait que des mauvaises choses. Tenez, en 773, par exemple, j'ai reçu un appel à l'aide du pape Adrien Ier. Le pauvre se faisait un sang d'encre car les Lombards, un peuple barbare, s'étaient installés au nord de l'Italie et ils menaçaient d'attaquer Rome. Du coup, moi, n'écoutant que mon courage, j'ai guidé mon armée à travers les Alpes et j'ai assiégé Pavie, la capitale des Lombards, pour protéger le pape. Pas mal, non ?
Oui, c'est mieux.
Et après plusieurs mois de siège, le roi Didier de Lombardie se rend. Et en 774, je me fais couronner comme roi des Lombards. Tout le monde était admiratif de ma victoire sur ce peuple redoutable et ma réputation dépassait les frontières. Je décide alors de conquérir de nouveaux territoires. C'est comme ça que 4 ans plus tard, en 778, je me tourne vers l'Espagne. À cette période, le pays est gouverné par les morts.
Quoi ? Des morts vivants ? Comme des zombies ? Mais qu'est-ce que des zombies font en Espagne ?
Mais non, Malik. Des morts. M-A-U-R-E-S. C'est un peuple musulman, originaire d'Afrique du Nord.
D'accord.
Quelle imagination. Bon, alors, aidé par un autre chef musulman qui m'a proposé une alliance, je débute une grande campagne pour me lancer à la conquête de l'Espagne. Pamplune, Gérone, Barcelone, j'enchaîne les victoires. Mais, arrivé aux portes de Saragosse, je tombe face à un ennemi implacable.
Une super grande armée ?
Des remparts infranchissables ?
Un peu des deux. Mais surtout, un soleil de plomb. La ville était imprenable et il faisait extrêmement chaud. Alors, nous sommes rentrés chez nous. Et vu que je n'étais pas très très content d'avoir été tenu en échec, je détruis les remparts de la ville de Pamplune en repartant.
Vous aimez bien tout casser, vous, en fait, hein ?
Oui, croyez-moi, je l'ai regretté aussitôt. Car cette bêtise a irrité les Basques, et pour se venger, ils ont organisé une embuscade contre mon armée.
La bataille de Roncevaux !
Elle-même. Sur la route du retour, toujours en 778, nous passons par les Pyrénées. Le trajet se déroule bien quand, soudain, une volée de flèches, de pierres et de troncs d'arbres s'abat sur notre arrière-garde. Roland, le chef de cette partie des troupes, tente de nous appeler à l'aide en soufflant dans son corps. Malheureusement, nous étions déjà loin devant et personne ne l'a entendu. C'est comme ça que Roland et ses hommes se sont fait tuer. J'ai été très affecté par cet événement et j'ai décidé de ne plus jamais intervenir personnellement en Espagne, laissant cela à mes responsables militaires. Du coup, pour me changer les idées, je décide de me faire bâtir un palais magnifique.
C'est quand même bien d'être roi.
Je le fais bâtir à Aix-la-Chapelle, dans la région de mes ancêtres.
C'est en Allemagne, proche de la Belgique et des Pays-Bas.
Sa construction s'étend sur 10 ans, entre 795 et 805. Grâce à toutes mes victoires, j'ai l'argent nécessaire pour faire venir les meilleurs matériaux, artisans et architectes du royaume. Dedans, je me fais bâtir un trône en hauteur pour être à mi-chemin entre Dieu et les hommes. C'est d'ailleurs pour cela que l'on m'appelle Charlemagne, qui signifie en latin « Charles le Grand ». À la fin des années 790, je contrôle une partie importante de l'Europe, à tel point que le pape Léon III propose de me sacrer empereur d'Occident.
Et vous avez accepté ?
Évidemment ! Et cela fait de moi un des hommes les plus influents du monde. Les plus grands souverains veulent me parler, me demander conseil ou se présenter à moi. En 802, depuis Bagdad, le calife Haroun al-Rachid me fait même parvenir un éléphant blanc.
Un éléphant ? Ouah, déjà que ma mère, elle trouve qu'un cochon d'Inde, c'est trop gros. Oh là, un éléphant.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus après tout ça ?
Eh bien, c'est là que je vais pouvoir répondre à votre question du début. Bien que je n'ai jamais été très doué pour la lecture ou l'écriture, j'aime être entouré de gens cultivés. Et c'est pour cela que j'encourage l'instruction. C'est d'ailleurs sous mon règne que l'on inventera la caroline, une technique pour rédiger des manuscrits plus rapidement.
Mais alors, l'école, c'est vous ou pas ?
Je n'ai pas inventé l'école telle que vous la connaissez aujourd'hui. Mais j'ai tout de même inventé un type d'école. Car dans mon palais d'Aix-la-Chapelle, un lieu était dédié à la formation des hauts fonctionnaires afin qu'ils puissent m'aider ensuite à gouverner mon royaume.
Oh, ouais,
mais ce qui est sûr, c'est que toute ma vie, j'ai poussé le clergé et le peuple à s'instruire. Car, comme je le disais souvent, pour faire ce qui est juste, il faut connaître ce qui est juste.
Oui, donc l'école, c'est un peu vous quand même.
Pas tout à fait, hein. Et après, vous avez fait quoi alors ?
Oh, la fin de ma vie est un peu triste. En 810 et en 811, je perds mes deux fils aînés que j'aime profondément. En plus, les guerres se multiplient, notamment contre ces fichus vikings qui viennent du nord et qui ravagent tout sur leur passage. Je fais face jusqu'au bout, mais finalement, en 814, je meurs. Après un règne de 45 ans. Mais, dites-moi, j'ai une question pour vous. Qu'est-il advenu de mon royaume après ma mort ?
Alors, si je me souviens bien, c'est votre dernier fils, Louis le Pieux, qui a pris la relève. Entre les révoltes, les guerres civiles et sa campagne contre les Bretons, il a eu beaucoup de travail. Et à sa mort, l'Empire est divisé entre ses différents fils.
Je vois. Eh bien, je suis content d'apprendre qu'il a fait ce qu'il a pu. Bon, maintenant, je dois vous laisser. J'ai un éléphant blanc à nourrir, moi.
Au revoir, Charles le Grand.
Au revoir, Charles le Grand.
Les enfants, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre historique. Cet épisode a été écrit par Thomas Le Petit Corps, interprété par Vincent Paillet et Clara Ziegler, mis en musique par Léopold Roy et Fanny Dupuis. À bientôt pour un nouvel épisode de Dans la classe de...
Ce podcast a été produit par Unique Héritage Média. Retrouve toutes les informations sur maisondupodcast.fr.